Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 15, Recherche du Père. Depuis le départ d'Aélénor, Keller n'avait pas de paix. D'abord, elle lui manquait. Elle lui manquait de manière tyrannique, démesurée, physique. Son absence le réveillait la nuit et lui coupait l'appétit, l'empêchait de se concentrer et le faisait tourner comme un lion en cage. Son absence l'angoissait, comme ne l'angoissait pas même sa propre mort. Il la voyait sans cesse blessée, morte, enlevée, bref, perdue, et l'ampleur de cette perte ne se mesurait qu'à l'absolu. Et l'autre partie de son esprit effervescent ressassait inlassablement les espoirs et les craintes qui avaient baigné sa vie depuis l'enfance. Le moment fatidique approchait, celui où il pénétrerait dans les murs de cette haute ville si sacrée à ses yeux. Son rêve le plus interdit allait se réaliser, il se ferait reconnaître de son père. Des visions contradictoires s'entrechoquaient en lui, mais son fantasme le plus ancien, le plus tenace, était celui-ci. Son père le reconnaissait avant même qu'il eût parlé, et son vieux visage fatigué rajeunissait soudain. Un poids semblait lui être retiré, et un pâle sourire apaisait ses traits. Ils se racontaient leurs existences comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et son père paraissait fier de lui. La fin du fantasme variait, toujours, depuis les 10 ans de Keller. Soit son père insistait pour l'introniser au citoyen, et il se faisait greffer une pierre frontale en forme de soleil, soit son père, las d'une richesse vide et d'un mariage sans amour, se faisait apostat pour le suivre en ville basse, où il mourait heureux parmi ses petits-enfants. Keller n'eut jamais avoué ce fantasme à personne, et se serait même défendu de l'avoir, bec et ongles. Il était d'ailleurs le premier à se fustiger lui-même pour son sentimentalisme puéril. Et pourtant, Kettel, dont la bienveillance n'avait d'égal que sa lucidité, tentait de naviguer à vue parmi ses sautes d'humeur et ses impatiences. Tantôt il l'entretenait d'Aélénor, tantôt il lui changeait les idées, tantôt il le laissait à des silences songeurs. Son amitié pour Keller lui faisait à lui aussi attendre et redouter le moment où le rêve se briserait contre les remparts de la réalité. Kettel connaissait les hommes de la haute ville, et bien qu'espérant se tromper, il supposait que Keller courait au-devant d'une cuisante douleur. La question qu'il se posait, en fait, et à laquelle il ne parvenait pas à répondre, était comment Keller réagirait-il? De jour en jour, l'état de Keller empirait, et il accueillit presque avec joie la blonde silhouette de Stell. Ce dernier, sans excès d'aucune sorte, lui transmit un vélin et prit congé. Keller le déroula dans l'arrière-cuisine de la frontière, le cœur battant, et se heurta à une gracieuse calligraphie totalement incompréhensible pour lui. Il se jeta dehors sans même prendre la peine de se couvrir et parcourut le trajet qui le conduisait chez Kettel, le vélin serré contre sa peau sous sa chemise. Il se sentait de force à tuer 10 hommes pour préserver ce vélin d'une seule éclaboussure de boue. Kettel se montra, comme d'habitude, très empressé, et traduisit le court texte en même temps qu'il le lisait. À l'issue de recherches combinant l'âge, la guilde de rattachement, la forme de la pierre frontale et les particularités physiques, l'identité du citoyen en question était probablement celle de Zoroastre, dont le palais faisait l'angle du jardin embaumé et de la venelle au papier. Kettel, gagné par l'excitation, se saisit d'une plume et se mit à tracer un plan du quartier concerné au dos du vélin. Keller le regardait sans le voir, un peu hébété. « Keller ?» le rappela Kettel. « Oui, excusez-moi. J'étais en train de vous dire que je devrais aller faire un repérage. Seul ? Oui, la première fois, si cela ne vous dérange pas. » Keller fit non de la tête. Il se sentait vide, tout à coup, au bord du vertige. « Vous allez rentrer chez vous, » dit Kettel, « et tâcher de dormir. Et moi, dès le coucher du soleil, j'irai fureter un peu. » « Vous l'avez déjà fait ?» demanda Keller. « Presque une fois par semaine, les premières lunes de mon apostasie. Et puis, les charmes de la haute ville, la nuit, se sont épuisés. Je n'y suis pas allé depuis près de 10 ans. » Et c'est ainsi que Kettel, cette nuit-là, se sentit redevenir un jeune homme insolent. Il revêtit sa plus belle toge et tressa ses cheveux consciencieusement, puis il passa un épais fard sur sa cicatrice et rabattit son capuchon. À cette heure avancée de la nuit, il rencontrerait probablement surtout des veilleurs pris d'érotisme et de boissons, qui n'irait pas examiner sa peau parcheminée à la loupe. Le plus difficile serait donc d'entrer, mais, par chance, l'ancienne poterne par laquelle il avait coutume de passer était toujours praticable. Il suffisait de longer le canal frontière, jusqu'au lieu où il devenait souterrain à la haute ville. Là, au-dessus de sa surface, s'élevait à la verticale un rempart assez mal entretenu, que ses plantes grimpantes et ses fissures changeaient en un bon mur d'escalade. Ensuite, il s'agissait de se faire ombre parmi les ombres et de traverser les marches, en évitant les flaques de lumière comme les rondes des gardes pourpres. Enfin, l'on arrivait à l'ancienne poterne, qui desservait autrefois ce quartier excentré de la haute ville et qui avait été abandonné lorsque les consignes de sécurité s'étaient renforcées. La serrure était vieille et rouillée, mais crochetable, et l'on se retrouvait dans les murs, au fond d'une impasse peu fréquentée. Kettel s'assura que son capuchon recouvrait l'éclat presque ininterrompu de sa pierre frontale. Il lui fallait en effet utiliser l'esprit presque à chaque étape, pour maîtriser son équilibre et son poids lors de l'escalade, pour se rendre furtif lors de la traversée des marches, pour étouffer les bruits et raffermir sa main lors du crochetage. Kettel accomplit tous ces gestes en imaginant à sa place un Keller dépourvu de la maîtrise de l'esprit, et jugea qu'il était presque impossible à un bas citoyen de franchir tous ces obstacles. Mais Keller, contrairement à lui, était jeune, et la force de sa volonté agirait peut-être en sa faveur, de manière inconsciente. C'était un phénomène que Kettel avait déjà observé quelquefois, avec beaucoup d'intérêt, chez des bas citoyens, animés d'une émotion très violente ou d'une détermination très ferme. Leur psychisme, sans pour autant qu'ils le contrôlent à proprement parler, venait au secours de leur corps, un peu de la même façon que l'esprit lorsque l'on faisait appel à lui. C'était bien sûr moins fiable, et cela n'aurait pas été de taille à lutter contre un réel talent spirituel, mais cela restait assez impressionnant. Kettel enregistra mentalement chaque détail du parcours, et, le cœur légèrement battant, il se retrouva bientôt en haute ville. Là, au fond de l'impasse déserte, il s'arrêta un instant, dans une étrange suspension du temps. La haute ville était comme le parfum d'une ancienne maîtresse depuis longtemps oubliée. Elle était capiteuse, envoûtante et suggestive. Elle avait la force de la présence, conjuguée à celle du souvenir, et submergeait Kettel de son immense pouvoir de séduction. Pendant quelques minutes, il eut violemment envie de se laisser aller à la mollesse humide de ses jardins, de caresser son albâtre à l'ineffable douceur, de respirer jusqu'à l'ivresse ses senteurs oubliées. Elle se répandait en lui comme un délicieux poison, par tous les pores de sa peau, elle s'engouffrait dans son âme par ses yeux grands ouverts. Puis cette écrasante sensation passa, et Kettel mesura le vertige auquel il venait de succomber. Il ferma les yeux pour se relaxer et se composa une démarche adéquate, décidée sans être pressée, la tête légèrement baissée, comme s'il était absorbé par d'importantes réflexions. Il franchit l'impasse et se retrouva au cœur du quartier sud. Il enregistra mentalement le détail exact des rues et des palais et s'interdit, non sans mal, de porter ses yeux contemplatifs sur les façades et les statues qui jalonnaient sa route. Il y en avait pour 15 minutes de marche environ pour aller jusqu'au palais de Zoroastre, en marchant d'un pas habituel. 15 minutes pendant lesquelles un bas citoyen, au front vierge de pierre frontale, pouvait à tout instant se faire arrêter et contraindre. Il songea que décidément, il était impossible de tenter l'expédition de jour, et il se confirma à lui-même l'absolue nécessité d'accompagner Keller. Il croisa un groupe de jeunes gens dénudés, puis, plus tard, une femme seule qui le dévisagea. Il lui sourit, le temps de capter son regard, puis dit calmement de sa voix de verbe. « Je suis le vieillard insignifiant et familier que tu croises depuis toujours, un simple vieillard sans nom et sans visage, que tu auras oublié dans quelques mètres à peine. » La femme secoua la tête et détourna le regard avant de poursuivre son chemin. Kettel s'estima chanceux, et marcha plus précautionneusement jusqu'à l'entrée principale du palais de Zoroastre. Tout était silencieux à l'intérieur, et il faudrait s'ingénier à trouver le moyen de réveiller le vieux Grigou sans donner l'alarme générale. Kettel fit le tour du palais, repéra une fenêtre ouverte au premier étage, et s'y risqua. La fenêtre donnait dans une galerie où Kettel fit fuir un iguane. Il visita l'ensemble des pièces accessibles, les patios et les cuisines, les salons et les bains, quelques cabinets et antichambres. La configuration de la maison était assez classique et il crut pouvoir affirmer que les propriétaires dormaient dans les chambres du rez-de-chaussée donnant sur le patio central. Les reptiles ornementaux, effrayés par ses mouvements, filaient silencieusement à son approche. Il ne faudrait pas oublier de prévenir Keller de ce détail. Il n'avait jamais vu de reptiles en ville basse et se doutait que leur vue pouvait avoir de quoi surprendre ou effrayer un bas citoyen. Kettel s'assit quelques minutes dans l'ombre d'un citronnier, sur un banc du patio, et réfléchit. Il devait savoir où dormait Zoroastre, et pour cela, bien peu d'options s'offraient à lui. La première consistait à pénétrer dans toutes les chambres pour observer la physionomie des dormeurs, ce qui représentait un risque considérable compte tenu de la vigilance permanente et du sommeil troublé des hauts citoyens. La seconde consistait à se cacher pour attendre le matin, mais là encore, sa présence risquait d'être détectée. Il refit un tour du palais pour trouver une inspiration et ne put s'empêcher de marauder quelques objets, dont une ravissante paire de boucles d'épaule qu'il destinait à Eleanor. Puis il tomba dans un petit bureau où les encres fines, les vélins et les pinceaux de calligraphie étaient rangés selon leurs couleurs et leurs tailles respectives. Négligeant l'œil sournois d'un petit serpent au beau reflet d'argent lové sur le pupitre, il saisit un vélin, un pinceau et une encre et rédigea une missive, assez brève pour être intrigante, assez ambiguë pour émaner indifféremment d'une femme ou d'un homme. Kettel se souvenait que les invitations au plaisir de la chair se faisaient souvent par voie épistolaire. Il priait seulement pour que le vieux Zoroastre y prenne encore quelque intérêt. En réprimant un sourire, il tourna une ou deux phrases provocantes et équivoques, fixant pour le lendemain dans la nuit un rendez-vous plein de promesses dans le jardin embaumé. Puis, il décida de se hâter, quitta le palais par la fenêtre, après s'être assuré que la rue était déserte, glissa le vélin dans le réceptacle prévu à cet effet et regagna la poterne, assez satisfait du tour qu'il avait joué.